Et alors, nous passons maintenant à la section C de cette troisième partie, intitulée « Les trois circuits de l'amour du prochain ». Et je vous invite à prendre en main à nouveau les documents annexes et le document B en particulier. Nous allons nous servir pour cette exposé de la colonne de gauche, intitulé « Les trois circuits de l'amour du prochain ». Comme nous l'avons vu juste avant de nous quitter, le Christ est le révélateur du mystère trinitaire. Du point de vue de l'agapé divine, il est d'abord le signe, la preuve et le gage de l'amour du Père qui le donne aux hommes. Il est la révélation de l'amour du Fils lui-même, qui se donne aux hommes, dont il s'est fait le frère, l'ami, le prochain. Et troisièmement, le Christ est la source et la manifestation de l'Esprit qu'il donne, conjointement avec le Père, et qui scelle, stabilise, intériorise, la communion entre Dieu et les croyants, et les croyants entre eux. Donc, trois dimensions d'un unique mystère qui nous donne trois voies d'accès et de réflexion vers le ministère du prochain. Donc, si je veux imiter le Christ, le prochain devient, à l'exemple de Jésus, comme celui d'abord à qui le Père m'envoie et auprès de qui j'accomplis l'amour de Dieu pour lui. En second lieu, comme celui en qui je rencontre le Christ et en qui j'accomplis mon propre amour de retour pour Dieu. Et troisièmement, le prochain, c'est celui ou comme celui avec qui je réalise la communion dans l'Esprit, et en cette communion est accompli l'amour de Dieu. Donc, à la fois l'amour qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu, et qui demeure en Dieu. Alors, le premier circuit, et suivons la flèche que vous avez sous les yeux. Dans le premier circuit, le prochain, c'est comme celui à qui le Père m'envoie et auprès de qui j'accomplis l'amour de Dieu pour lui. En ceci consiste l'amour de Dieu, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, qui est venu vers nous, nous aimer. Cela suppose, pour pouvoir réaliser ce premier circuit, que l'on croit d'abord que Dieu nous aime personnellement, chacun de nous, et qu'il aime vraiment moi, distinct des autres, et que Dieu m'aime pour les autres. Son intention est universelle, il veut sauver, appeler, rassembler tous les hommes. Donc, il y a deux lacunes ou deux déviations possibles. Ne pas se croire aimé personnellement par Dieu ou se croire seul aimé de Dieu. L'autrui devient prochain dès que je découvre cette intention universelle de l'amour divin. Même si cet amour cherche d'abord à me combler, à passer par moi. Je découvre d'abord comment Jésus-Christ s'est fait mon prochain, puis comment il veut que je sois le prochain des autres. Aimer le prochain au nom de Dieu et à cause de Dieu, c'est laisser Dieu l'aimer en moi et par moi. Le prochain n'est pas l'instrument pour moi vers Dieu, ni l'instrument vers les hommes. Mais je suis l'instrument dont Dieu veut se servir pour atteindre certains autres et témoigner son amour. C'est Dieu qui, le premier et sans cesse, recherche et s'approche des autres et nous demande de les considérer, eux, qui sont ses prochains à lui, Dieu, comme nos prochains à nous. On a, la Bible est remplie d'exemples. Prenons Jonas, qui pour diverses raisons méprisait les Ninivites. Il ne voulait ne pas avoir affaire à eux. Dieu décide de choisir Jonas, malgré cela, et demande qu'il soit son instrument prophétique pour se faire le prochain des Ninivites. Alors que lui souhaitait que les Ninivites restent bien éloignés du pardon de Dieu. Il leur en voulait même à ce point-là. Il l'envoie. Et il lui révèle à Jonas ces masses abandonnées qui lui tiennent à cœur, lui, Dieu. Puis il demande à Jonas, vas-y. Ananie, ça a été la même chose. Ananie éprouvait un haut le cœur quand le Seigneur lui a demandé de s'approcher de Saul, le persécuteur, le futur saint Paul. Dieu lui dit que Saul est devenu son prochain à lui, Dieu, et qu'il doit devenir son prochain à lui, Ananie. Bref, le prochain, c'est toujours celui à qui Dieu nous envoie livrer son amour. Ou il le met sur notre route, où il nous met sur sa route. Et quand on parle de route, ce n'est pas une fantaisie personnelle, quelque chose qu'on organise, qu'on cabale, mais une vocation personnelle. Donc, toute l'expression « connaître sa vocation »,« chercher sa vocation », ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire chercher à connaître les prochains à qui Dieu veut nous donner. C'est une seule et même chose. Donc la charité n'est pas seulement une intention, c'est une action à l'endroit d'êtres qui sont concrets en chair et en os. Nous devons nous approcher de tous les humains sur la terre, en esprit, mais en acte, véritablement, de quelques-uns seulement. Or, c'est l'intensité de l'acte vis-à-vis ces quelques-uns qui nous prouve l'authenticité de notre amour pour toute l'humanité. C'est Peggy qui disait, il y en a qui, parce qu'ils n'aiment personne, s'imaginent qu'ils aiment tout le monde. La charité est universelle dans son acte invisible, mais particulière dans ses actes visibles. Et quand je dis particulière, je ne veux pas dire particulariste, exclusiviste, exclusive. Le choix des urgences concrètes dans la vie n'est pas une stratégie humaine. C'est l'Esprit-Saint, au-dedans des croyants, qui inspire aux uns de se rendre les prochains, par exemple, de la classe ouvrière, se rendre le prochain des personnes mourantes, se rendre le prochain des démunis, se rendre le prochain des noirs. L'Esprit-Saint, lui, lance ses voix, V-O-I-X et V-O-I-E-S, à travers tous les secteurs de misère dans le monde, que ce soit physique ou spirituel. Il organise un réseau de routes de la charité dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça, le corps mystique tout entier vivant. Il est un instrument adéquat de la charité universelle de Dieu. Le chrétien aime avec le cœur et les yeux de Dieu. Donc, notre motivation d'aller vers le prochain, ce n'est pas du tout en relation avec la dignité du prochain, ses mérites. Mais c'est basé sur la confiance que Dieu peut faire d'eux ce qu'il veut. À la vérité, on le constate, nous aimons souvent ces prochains avec plus de vérité et de profondeur qu'ils s'aiment eux-mêmes. Car, dans notre cœur, nous avons entendu la preuve d'amour de Dieu en nous, pour eux, même avant eux. Et nous pressentons donc déjà, avant d'être près d'eux, nous pressentons déjà ce que Dieu veut faire d'eux, pour eux et par eux. Et c'est la même chose que nous devons vivre actuellement vis-à-vis ceux et celles qui résistent à l'appel du Seigneur au renouveau de son Église. On sent dans notre cœur que Dieu les aime et veut les rejoindre. Donc, il nous demande d'être les porteurs de son amour auprès d'eux. Quand arrivera le jugement particulier à la fin de nos jours, la question qui nous sera posée, c'est « De qui t'es-tu approché? » As-tu été vers ceux et celles auxquels je t'ai envoyé? En résumé, pour ce premier circuit, l'entraînement d'amour vers le prochain, c'est ni plus ni moins que le prolongement, le débordement de l'amour universel de Dieu à travers nous. Passons, si vous le voulez bien, au deuxième circuit et examinez la flèche également. Le prochain devient en deuxième lieu comme celui en qui je rencontre le Christ et en qui j'accomplis mon propre amour ou mon propre retour d'amour pour Dieu. C'est Saint Jean qui dit « Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier. » On dit souvent que nul ne se découvre aimé qu'il ne soit sollicité de rendre amour pour amour. Or, Dieu nous a cherchés et trouvés, par et dans le Christ, à notre tour. Nous devons lui rendre l'appareil, le rechercher et le trouver, que par et dans le Christ. Or, le Christ nous a révélé que le moindre des siens, le souffrant, le blessé, c'est lui. Alors, le prochain devient pour moi, dans ce second circuit, le Christ requérant d'être aimé à son tour. Dieu n'est pas dans le prochain un peu comme une perle dans un écrin ou un grain dans l'épi ou du métal dans le minerai que l'on épure, mais Dieu est dans le prochain comme celui qui seul peut le révéler à lui-même, comme celui qu'il cherche de toutes ses aspirations, même sans le savoir ou le connaître. Le prochain est donc aimé pour lui-même, pas pour la joie et la paix que cela me donne, pas pour les vertus que cela me fait pratiquer, pas pour la collaboration qu'il me redonne, car alors je cherche le Christ en moi, ce qui est bien, mais la charité, c'est la recherche du Christ dans l'autre. Aimer l'autre et vouloir donc sa conversion. Pas sa conversion à mes idées, à mes pratiques, pas pour l'entraîner dans mon cercle ou triompher de l'autre, mais sa conversion à Dieu qui veut s'installer en lui, l'éclairer et le rendre libre. Donc, il faut en parler à Dieu plus qu'à lui. Aimer le Christ en lui, même le Christ qui sommeille en lui. Donc, c'est important là de comprendre ce que ça veut dire aimer les hommes pour eux-mêmes, dans toute la mesure du possible. Les aimer pour l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire abstraction faite d'eux, mais ça veut dire comme Dieu les aime, avec le cœur de Dieu. C'est comme aimer du chocolat qui est fait par quelqu'un qu'on aime. Aimer l'autre, c'est comme Dieu nous aime. Beaucoup de désespérés, de pauvres, de misérables, de pécheurs, de démunis ont comme problème majeur, c'est qu'ils ne se croient plus dignes d'être aimés. D'où leur séparation vécue de la société et de Dieu. Il y a un danger de prendre l'homme pour un objet et une occasion de bienfaisance. On a trop tendance à ne voir qu'un cas à traiter ou un ménage à réconcilier. L'attitude d'âme qui normalement devrait nous animer si les circonstances de temps et de rapprochement nous le permettaient, en s'approchant du prochain, l'attitude d'âme idéale devrait aboutir à de l'amitié. Car Jésus est notre ami. Il nous demande d'aimer les autres comme lui les aime, pour en faire des amis. Évidemment, on est bien d'accord, le temps ne nous le permet pas, le nombre non plus, mais l'attitude de fond de l'âme devrait être toujours la même. Nous devrions souffrir de ne pas pouvoir devenir l'ami de tous. Et alors, la charité vraie habite notre cœur. Tous doivent se sentir aimés avec respect pour eux-mêmes et pas seulement pour le service qu'on leur rend, même s'ils ne se convertissent pas. Il y a une déviation dans l'apostolat moderne qui consiste à n'aimer que pour convertir. Au contraire, il faut aimer pour aimer, comme le Seigneur, sans retour, même sans amendement de la personne, sans conversion. Ce désintéressement est une révélation de foi. C'est difficile, c'est déchirant même, mais comme tout véritable amour. Mais le précepte est là. Il faut nous efforcer de ressembler à Jésus. Troisième circuit, et regardons encore une fois le dessin. Dans le troisième circuit, le prochain est celui avec qui je réalise la communion dans l'esprit. En cette communion est accompli l'amour parfait de Dieu, parce que c'est l'amour qui vient de Dieu à travers moi, qui retourne à Dieu à travers l'autre en qui je trouve le Christ, et qui demeure au milieu de nous et donc en Dieu. L'amour des ennemis, des incroyants, des ingrats, sans retour, c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain dans sa forme héroïque. C'est un peu comme le Père qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il n'a pas nécessairement de retour de cet amour. C'est la forme héroïque. D'être capable d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, qui nous ignore, qui nous rejette. Mais la perfection suprême de la charité fraternelle, son achèvement glorieux, son désir profond, c'est d'arriver à instaurer une communion parfaite avec l'autre. Communion entre ceux que la foi et l'amour du Christ ont rapprochés. Pas seulement une communication d'amour, mais une communion dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. On dit que la charité épanouie et réciproque, c'est le commencement de la réalisation de vie éternelle. Qui sera Dieu habitant tout en tous. Et dès ici-bas, Dieu, qui est un bien indivisible, aimé en lui-même et aimé dans les autres, qui aime par moi les autres et qui est aimé en moi par eux, devient proximité, devient unité. Pour moi, les croyants ne sont pas seulement des prochains, mais deviennent des membres du même corps. L'Esprit les rend un, comme la Trinité. Et on comprend la prière de Jésus quand il dit que tous soient un, comme toi et moi, Père. L'Église, en définitive, quand on cherche des définitions de l'Église, c'est quoi? C'est la projection visible sous nos yeux, dans le temps et dans l'espace, de cette unité, de cette circulation invisible de la charité qui vient de Dieu, qui passe à travers nous pour aller rejoindre l'autre, qui nous amène à nous sceller dans une relation de communion. Et nous amène à comprendre ces déclaration des premiers temps de l'Église, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Ou encore, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Tous ne font qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, 28. Cela ne va pas du tout à l'encontre des diversités, personnalités, des vocations, et n'exige pas du tout l'uniformisation. Dans tout amour, il doit y avoir certaines similitudes. Dans l'amour humain, il faut un certain nombre de goûts, d'idées semblables. On ne peut vraiment ne pas envisager d'amour humain et différer du tout au tout. Dans la charité, la similitude n'est pas entre l'autre et moi, mais entre lui et Dieu. Les perfections de Dieu sont si riches que je puis les retrouver sous mille et mille reflets chez les autres. Même si nous différons humainement, car nous n'avons que partiellement les perfections divines, nous reflétons tous ce même Dieu, et c'est ça qui est le fondement de notre amour envers le prochain. Ce par quoi nous sommes différents les uns des autres, même du tout au tout, nous est quand même commun en Dieu. Donc nos différences, nos diversités, regardées en charité, ne sont pas assumés du dehors, à coup d'effort, à regret ou sous pression, mais elles s'intègrent parfaitement à la motivation même de notre charité. Le seul amour vraiment digne de Dieu, c'est le sien. qui est accueilli en moi, qui me transforme au passage, passe vers les autres, et par les autres, vers lui, pour revenir à nouveau. Enrichi, en cours de route, par notre liberté d'accueil et de partage. Donc, tout l'amour du prochain, ce n'est pas mon amour qui l'attend, mais celui que Dieu lui destine. Son amour que moi je lui transmets, que lui reçoit pour me transmettre et que nous célébrons ensemble dans la communion. Et voilà, nous passons à la quatrième partie intitulée « Les principaux motifs qui inspirent l'amour du prochain ». Le premier des motifs qui inspire l'amour du prochain, c'est notre besoin absolu d'être aimé et d'aimer, qui est déjà inscrit, on le sait, dans la nature humaine et attisé par la vie de la grâce. En effet, on le sait, on ne peut pas avoir été créé par celui qui est amour, le Père. Avoir été racheté par celui qui est amour, le Fils. Être poursuivi, sanctifié et achevé par celui qui est l'amour, l'Esprit, sans que cela laisse en nous, on l'imagine bien, sa marque trinitaire. D'où notre grande faim et soif d'amour à donner et à recevoir. On est tous, du verbe naître, naturellement avec une grande quête d'amour. On est tous, du verbe naître, surnaturellement par le baptême, avec une plus grande quête d'amour qui ne cesse d'augmenter. Et chaque fois qu'on renaît spirituellement, et la vie spirituelle vraie est une renaissance perpétuelle, notre quête d'amour ne cesse d'augmenter. Dieu amour est donc l'alpha de notre insatiable besoin, la source, la cause de notre désir d'aimer et d'être aimé. Il ne peut avoir suscité un tel besoin, une telle faim et une telle soif, au point que sans vraie réponse, on en est désemparé, sans avoir prévu bel et bien une réponse adéquate. Et c'est là qu'il faut comprendre que s'il en est l'alpha, il en est aussi l'unique oméga, véritable et satisfaisant. Pour creuser en nous un tel désir profond, constant, insatiable, qui s'empare de nous et qui ne nous lâche pas jusqu'à notre dernier souffle, il fallait vraiment être un Dieu qui est tout amour et puissance. Des humains ou des choses peuvent momentanément susciter un grand besoin d'amour, aller-retour, mais ce n'est jamais aussi tenace, tiraillant, durable, comblant. Cela connaît tôt ou tard des hauts et des bas. Mais ce qu'on a au fin fond de nous-mêmes, cet absolu, ce besoin d'amour absolu, ça ne nous lâche jamais. Donc ce désir, cette quête d'amour étant d'origine divine, n'aura de réponse véritable que si elle est divine. Et c'est là que le plus tôt possible dans notre vie, il faut nous situer et identifier cette quête d'amour comme existante, comme étant légitime, bonne à accueillir et vivre, et comme voulu et venant de lui. Ne pas l'ignorer, en avoir peur ou la refouler. Ensuite, cela étant identifié et accueilli, organiser notre vie pour aller cueillir cet amour-réponse, son amour à lui, son amour-réponse à notre insatiable et absolu besoin. Aller vers lui d'abord, avant toute chose ou tout autre. Et c'est dans la mesure qu'on cueille le plus et le mieux auprès de lui d'abord notre réponse d'amour, qu'on pourra le plus et le mieux tirer profit de son amour qui voudrait nous parvenir à travers les autres, sous d'autres formes, amour conjugal, filial, paternel, maternel, amical, ou à travers les événements de la vie. Son amour à lui, qui circule déjà dans nos coronaires d'amour, donnera à notre cœur la possibilité de mieux aimer et de nous laisser mieux aimer. Les défauts des autres et les nôtres seront alors purifiés au fur et à mesure. Son oméga d'amour, c'est-à-dire sa réponse, peut nous venir soit en direct, soit en différé par les autres ou la vie, ou par les deux à la fois, ce qui est le mieux, mais en respectant toujours l'ordre que ça vienne de lui et des autres, ensuite, de sorte que si les autres faisaient défaut, on a quand même la plénitude d'amour de Dieu reçue en direct. Il y a d'autres motifs à l'amour du prochain, et j'en énumère quelques-uns. D'abord, tiré du précepte formel de Jésus. N'oublions pas, nous l'avons vu, qu'il en a fait son commandement à lui. Il en a fait également le complément nécessaire du commandement, du grand commandement de l'amour de Dieu. Il lui est semblable, dit-il. Jésus en a fait la marque essentielle à laquelle on reconnaîtra tous ses disciples. Il le fait déclarer par son apôtre Paul, le plus important de ses devoirs, et je cite saint Paul, « Sur toute chose, ayez entre vous la charité. » Colossiens 3,14. Et il en fait, Jésus, la mesure de notre condamnation ou de notre pardon. Je me servirai envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi envers le prochain. Matthieu 7,2. On peut également voir d'autres motifs qui nous incitent à l'amour du prochain dans les exemples nombreux qu'on a eus sous les yeux. D'abord, l'exemple de Dieu, qui par amour pour l'homme crée et embellit l'univers, et qui, par amour pour l'homme coupable, va jusqu'à donner son Fils pour le racheter. On a de nombreux exemples de Jésus-Christ, qui, par amour pour l'homme, après s'être incarné, passe sa vie entière dans l'obéissance, dans le travail, dans la souffrance. Quel bel exemple! Et tous les exemples des saints de Marie, qui, pour l'homme, sacrifie son Fils. L'exemple des apôtres qui ont donné leur force et leur vie pour le bien de la communauté, du peuple, et tous les saints qui sacrifient leurs intérêts pour ceux du prochain. Et enfin, on peut tirer des motifs du prochain lui-même. Au point de vue surnaturel, le prochain est un enfant de Dieu, qui est racheté par le sang de Jésus-Christ. Et même l'âme de l'homme le plus détestable, le plus méprisable, vaut quand même le sang d'un Dieu. Et si ce prochain est un baptisé, eh bien le sang de Jésus-Christ lui a été appliqué. Il est devenu l'un des membres de Jésus-Christ, un enfant de l'Église. Et si en plus il est de la même Église que nous, s'il communie au sacrement, il resserre par cette nourriture sacrée les liens de fraternité qui unissent les enfants de la même Église. Sur le plan naturel, on le sait, rien n'est doux comme d'aimer son prochain, d'en être aimé, et rien ne satisfait le cœur comme faire du bien, consoler, assister un autre. Passons à la cinquième partie. Et à ce moment-ci, je vous invite à prendre le document annexe C. Nous avons considéré jusqu'ici l'amour, l'échange de l'amour au sein de la Trinité, le Père qui a envoyé son Fils pour que nous vivions nous aussi la vie de Fils, le Christ qui nous a fait connaître son message d'amour, à nous de garder ce message et de le passer aux autres. Donc de reconstituer ici-bas la famille du Père. C'est un des grands paradoxes de notre monde contemporain. D'un côté, on a un monde communiste qui a tenté d'établir une grande fraternité sans paternité, et on a vu ce qui est arrivé, et le Nouvel Âge refait exactement la même erreur. Et d'un autre côté, notre monde chrétien, qui lui veut reconnaître une paternité divine, et donne trop souvent le spectacle, hélas, d'une non-fraternité. Les deux tableaux sont opposés, mais reviennent au fond à la même erreur. Car il ne peut y avoir de vraie famille sans avoir à la fois la paternité et la fraternité. L'amour filial pour Dieu et l'amour fraternel entre les fils de Dieu sont inséparables. Alors, dans ce schéma C, nous avons quatre textes clés qui illustrent fort bien, parmi des centaines d'autres, le caractère exemplaire et héroïque de la charité fraternelle et communautaire. Et si vous me permettez, nous allons parcourir ces quatre textes et je vais rapidement les commenter. D'abord, le premier texte, c'est l'hymne à la charité. La première aux Corinthiens, chapitre 13, 1-7. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges. Et c'est pas peu dire, quand on connaît aujourd'hui tout cet effort qui est fait pour devenir interprète, polyglotte, parler toutes les langues. S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, c'est pas peu dire. Quand j'aurai la foi totale, celle qui transporte les montagnes et qui ne rêve pas d'avoir cette foi, j'aurai tout cela. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. R-I-E-N, rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Et on pourrait continuer cette litanie. J'ai beau aller à la messe, j'ai beau multiplier les réunions de prière, J'ai beau m'époumoner à servir les démunis, j'ai beau participer à tous les mouvements d'apostolat. Si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Et quelle belle litanie, c'est poétique au possible. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Et ce que je trouve sublime, c'est la dernière phrase. Il excuse tout, croit tout, espère tout, endure tout. Quand j'entends cette dernière phrase, j'ai toujours le goût de dire que être chrétien, c'est être une bonne poire. Excuse tout, crois tout, espère tout, endure tout, gobe tout, etc. Mais il y a une distinction importante toutefois, c'est qu'on accepte d'être poire volontairement. Et on ne peut accepter d'être volontairement poire que par amour. En amour, que n'accepte-t-on pas? D'ailleurs, cette réflexion, ce n'est pas moi qui l'invente, elle est consacrée par le dictionnaire. Si vous regardez dans le dictionnaire, au mot « bon », B-O-N, trait d'union chrétien, vous allez trouver la définition « variété de poire très estimée ». Mes chers amis, je vois que le temps file et je n'aurai pas le temps de passer à l'autre texte. Nous y reviendrons la prochaine fois. Mais réalisons la beauté et la grandeur de ce mandat d'être récepteur, transmetteur en haute fidélité. Avec toute la puissance que le Seigneur y donne lui-même, de cet amour du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, qu'il veut voir rayonner et partager entre nous. Amen. Alléluia.